Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et avant l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Joseph Henrotin, qu'on a entendu malgré tout, mais qu'on n'a pas eu le plaisir d'avoir en studio depuis un certain temps, depuis avant le confinement, rédacteur en chef donc de DSI Magazine, Défense et Sécurité Internationale, dans le cadre du partenariat avec le podcast, où il vient donc présenter régulièrement les nouveaux numéros récemment sortis de DSI. Et en l'occurrence, vous venez nous parler, alors notamment, il y a aussi un hors-série qui est sorti récemment, mais vous venez nous parler du DSI numéro 149. Comme toujours, c'est consacré à plein de choses, mais notamment avec une couverture et un gros dossier consacré aux armées du G5 Sahel, dont on comprend donc que ça tombe à point nommé, puisque c'est quelques semaines après un coup d'État et une transition en cours au Mali. Alors, peut-être parlez-nous de ce dossier central sur... c'est-à-dire le G5 Sahel, on sait, cette espèce de coordination de pays africains qui essayent de coopérer pour soulager progressivement la France de la charge de Barkhane. Donc, voilà, quel était l'angle et quelles sont les conclusions de ce dossier sur le G5 Sahel ?
Oui, bonjour. Alors en fait, sur le Sahel, Laurent Touchard nous avait proposé un double article en fait sur les armées du G5 Sahel, mais aussi la situation sécuritaire du G5 Sahel. Parce qu'effectivement, lorsqu'on reprend la stratégie française qui a suivi en fait Serval, il y a évidemment la transformation en Barkhane, bien évidemment.
Donc ça autour de 2014.
Autour de 2014, avec pour objectif in fine, évidemment, d'opérer une transition vers les armées locales, c'est-à-dire que la France n'a pas vocation à rester sur zone et ce sont les armées locales qui doivent prendre le relais. Et donc évidemment, la question de savoir si ces armées locales sont en mesure effectivement de reprendre le relais, c'est une question bien évidemment centrale alors pour Barkhane, mais pour la stratégie française dans le Sahel et pour bien évidemment ces États-là. Et donc Laurent Touchard, qui est un grand connaisseur de la zone, revient sur cette question. Pour faire un tour global, en fait, pays par pays du G5, alors à la fois de leur situation sécuritaire, mais aussi, donc dans un deuxième article, de leurs armées, avec les forces et les faiblesses. Et il y en a des deux côtés, c'est-à-dire que tout n'est pas...
Donc rappelez rapidement les pays qui composent le G5.
Alors, au niveau du G5, on a la Mauritanie, on a le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et bien évidemment le Mali. Et donc en sachant que effectivement avec le Mali, Laurent nous avait rendu les articles en fait quelques semaines avant le coup d'État, donc on a refait quelques modifications pour coller un petit peu, mais finalement le constat.
Oui, l'armée n'a pas changé avec le coup d'État.
L'armée n'a pas changé. Le contexte sécuritaire bien évidemment n'a pas changé. En fait, il continue à se dégrader. Évidemment, la question c'est de savoir à ce moment-là, au moment où on boucle, c'est de savoir si le Mali va continuer d'accepter de travailler dans le cadre du G5 Sahel, de continuer à travailler avec Barkhane, etc., etc. Et puis toutes les autres forces, UTM Mali, etc. Et donc le constat finalement dressé par Laurent, il est relativement pessimiste. Il a beau chercher à examiner les choses d'un point de vue objectif, les forces, les faiblesses, mais fondamentalement, force est de constater que depuis tout le temps qu'on pousse effectivement pour une plus grande intégration des forces armées locales, une plus grande interopérabilité, une plus grande activité en fait de ces forces sur le terrain, malgré tout, ça reste quand même assez difficile.
Alors on peut rappeler que par ailleurs, on a fait juste avant l'été une longue analyse avec Wassim Nasr de la situation au Sahel, notamment du point de vue des adversaires, c'est-à-dire des forces djihadistes, et des perspectives éventuelles de sortie de Barkhane, même si on mesure bien à quel point elle se dessine encore timidement. Par ailleurs, alors évidemment, une quantité d'autres articles dans ce numéro 149 de DSI, mais notamment, peut-être pour reprendre un exercice auquel on s'était déjà prêté il y a quelques mois au sujet de la Chine, il y a un exercice de rétexte, ou peut-être plutôt d'analyse, d'un défilé militaire, cette fois d'un défilé militaire russe, défilé de la victoire, donc de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, qui a eu lieu le 24 juin, et un peu comme on l'avait fait avec la Chine, enfin, c'est-à-dire, il faut rappeler que c'est utile, ces défilés militaires pour des puissances avec lesquelles on n'a pas particulièrement de coopération militaire, parce que ça permet de savoir, enfin, ils sortent un peu les armes du placard, quoi, et notamment les nouveaux jouets, les nouvelles armes. Et en l'occurrence, ils en ont sorti pas mal. Ils ont sorti, alors j'ai sous les yeux les photos, beaucoup de tanks. Mais dites-nous donc, Joseph, ce que ce défilé, cette revue militaire du 24 juin nous a permis de savoir sur, disons, les progrès et les équipements militaires russes.
Alors en fait, il était extrêmement intéressant ce défilé. Alors c'était pas le défilé de 2015 où on a vu apparaître toute une famille de nouveaux véhicules, etc. Là, on est plutôt dans l'adaptation de ce qui se fait déjà. Donc on revient, les Russes reviennent finalement avec leurs nouveaux véhicules, hein, les Kourganets, les boomerangs T-14, T-15, etc. Mais par contre, on voit bien qu'il y a des adaptations à la marge. Et l'attention, par exemple, qui est donnée au T-90M, qui est la version modernisée, si vous voulez, d'un char qu'ils ont commencé à produire dans les années 90, qu'ils réfléchissaient déjà dans les années 80, qu'ils produisent dans les années 90, est intéressante parce qu'en fait, on voit bien que les Russes ont du mal à sauter le pas, quelque part, de la nouvelle génération, et donc restent un peu accrochés, si vous voulez, à leur vision traditionnelle, qui est une vision de progression itérative, c'est-à-dire qu'on a un modèle qu'on va améliorer par des versions successives au fur et à mesure des nouvelles technologies disponibles, et on voit bien qu'il y a des technos qui ont été développées, en fait, pour les nouveaux systèmes, qui sont intégrés sur des systèmes plus anciens, modernisés, ce qui leur permet, en fait, par contre-coup, de faire de la masse, parce que les nouveaux systèmes, en l'occurrence, T-14 Armata, T-15, etc., sont quand même relativement coûteux.
Alors, au-delà, donc c'est les chars flambant neufs.
Ça, ce sont les flambants neufs qui ne sont même pas encore entrés en service. Hein, ils sont en cours d'essai, mais bon, ils les font défiler. Hein, contrairement à la Chine, la Russie fait aussi défiler des choses qu'elle n'a pas encore en service. Mais par contre, effectivement, après, on a des choses plus classiques, mais qui évoluent. Le T-90M, le T-80BV, etc. Des adaptations également quant à la défense antiaérienne, par exemple. On voit défiler le S-350E, qui est en fait le successeur des premières générations de missiles S-300, hein, c'est les missiles dont on parle de temps en temps. Bien, les premiers S-300 sont arrivés dans les années 80. Hein, donc le SA-10 Grumble est arrivé dans les années...
Donc des missiles solaires ?
Solaires, absolument.
Des missiles de défense antiaérienne, et on sait que l'implémentation de la mise en... sur l'adoption par la Turquie d'un certain nombre de missiles S a provoqué des grosses tensions au sein de l'OTAN, puisque ça impliquait d'adopter des systèmes antiaériens russes pour un pays qui était notamment au sein de l'OTAN. Donc bref, tout ça pour dire que les missiles S ont connu une petite célébrité à ce moment-là, mais que donc là, ils montrent dans une certaine mesure les nouvelles itérations de ce système, donc particulièrement stratégique.
Voilà, alors S-350, le Vityaz, c'est un système qui est complètement neuf, en fait. Hein. Donc on saute là aussi un pas, on saute une génération. Lui est en train d'entrer en service. Même chose, en fait, pour le Buk M3. Vous souviendrez peut-être que l'avion, le MH-17 qui avait été abattu donc par la Russie, a priori, au-dessus de l'Ukraine, l'avait été par un missile Buk, mais de deuxième génération. Là, on a la troisième génération qui est en train de sortir, et comme pour le S-350, on a des engins qui ont une portée un petit peu plus grande que la génération précédente. Donc ça aussi, c'est indicatif. Le Buk de nouvelle génération, en fait, va leur permettre de leur donner une ombrelle antiaérienne, une protection antiaérienne plus importante au niveau des brigades et au niveau des divisions. La traduction militaire, c'est que pour nous, éventuellement, aller frapper des forces russes, ma foi, ça sera un petit peu plus délicat. Alors après, on verra la suite d'essais, les démonstrations en vol, etc. de ces engins-là. Mais sachant aussi que les Russes ont traditionnellement une grosse capacité en matière de guerre électronique, et donc pour protéger finalement leur système, y compris antiaérien.
Très bien. Alors, on va dire, il y a aussi énormément de choses. Il y a aussi des analyses des batailles navales de la guerre du Kippour. Il y a un article sur l'artillerie française. Enfin, comme d'habitude, c'est un numéro extrêmement riche. Je voudrais juste terminer en disant tout le bien que je pense du dernier hors-série de DSI consacré aux armées françaises, hors-série numéro 73, qui est vraiment parfaitement remarquable puisqu'il fait un état des lieux des différentes armées françaises, donc marine, armée de l'air, armée de terre, des nouveaux équipements, où on en est des personnels, où on en est des grandes mutations. Vraiment, pour qui s'intéresse à la fois aux armées françaises, à leurs perspectives, à leur état, et disons aux grandes évolutions qui sont prévisibles à court et à moyen terme, vraiment ce hors-série numéro 73 de DSI, je ne saurais trop le recommander. Merci beaucoup, Joseph Henrotin.
Merci à vous.
Et donc à très bientôt pour un prochain partenariat.
Avec plaisir.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de l'essor des éliminations ciblées et des raisonnements qui sont mis en place pour justifier ce phénomène, j'ai le plaisir de recevoir Amélie Ferret, chercheuse postdoctorante à l'IRSEM, spécialiste d'éthique et de droit de la guerre. Alors, je vais simplement rappeler que les auditeurs du Collimateur ont déjà pu vous entendre il y a quelques mois, pendant le confinement, puisque vous étiez venu dans le format dans le bunker pour nous parler de la très intéressante série israélienne Fauda, depuis Tel Aviv, où vous vous trouviez alors. Et évidemment, l'épisode est encore facilement écoutable. Et vous avez depuis rejoint l'IRSEM, ce dont on se réjouit. Donc bonjour et bienvenue à l'IRSEM et dans le Collimateur.
Merci et bonjour.
Et c'est donc pour discuter aujourd'hui d'un ouvrage que vous avez fait paraître au début de l'été chez CNRS Éditions, adapté de votre thèse et intitulé « Assassinat ciblé, critique du libéralisme armé », où vous décrivez, comme je l'ai dit, une inflexion dans la manière contemporaine de faire la guerre, par la multiplication des frappes, souvent par drone, pour éliminer des individus précis sur des théâtres d'opérations étrangers, en tout cas par certaines puissances, et vous vous concentrez essentiellement sur les États-Unis et sur Israël, qui sont deux cas d'école intéressants et sans doute les deux puissances les plus avancées dans cette voie. Alors, il y a énormément de choses à dire là-dessus, et on va les dire, mais on peut préciser tout de suite que vous vous intéressez au phénomène, évidemment, mais aussi et surtout à la manière dont cette évolution est justifiée, notamment politiquement, parce que bon, c'est peut-être là que se trouve une des nouveautés centrales que vous mettez en avant, c'est-à-dire moins dans le principe de ciblage que dans les dimensions que prend cette politique, et donc dans la nécessité de lui donner à la fois une cohérence et une justification au moins apparente. Mais alors simplement, je voudrais peut-être commencer très basiquement par le mot, parce que j'ai très volontairement entretenu un flou jusqu'à présent, puisque j'ai parlé d'élimination ou de frappe ciblée, ce qui sont des expressions qu'on entend régulièrement pour parler du phénomène, et qui en décrivent une certaine réalité, à savoir qu'on cherche à la fois à frapper un ennemi, et qu'on cherche à faire disparaître un individu, a priori en particulier. Mais, comme on l'aura remarqué, c'est pas ce que vous avez choisi, puisque votre titre, c'est « Assassinat ciblé », ce qui pose clairement, si ce n'est une condamnation, mais en tout cas, qui inscrit la pratique du côté de la transgression, en quelque sorte. Donc, bon, là, la première question, ce serait pourquoi ce titre, et pourquoi ce choix, disons, sémantique, ce choix de vocabulaire ?
Alors, excellente question. Effectivement, c'est d'ailleurs un point qui m'a été beaucoup reproché et qui a donné lieu à des discussions assez musclées avec mes confrères universitaires. Donc, pourquoi j'ai choisi le terme d'assassinat ciblé ? Donc, il me semble utile de faire d'abord une petite genèse de ce terme, qui est en fait d'abord un terme hébreu, qui est Sikul Memukad, qui veut dire prévention ciblée, donc dans lequel l'acte de tuer n'est pas du tout cité. C'est un euphémisme qui a été fait par l'armée à des fins évidentes de légitimation de cette pratique. Ensuite, le terme a été utilisé dans le contexte états-unien, donc américain, Et là, c'était targeted killing qui revenait le plus souvent, un terme générique. Et après, en fonction de la, du positionnement des personnes vis-à-vis de cette pratique, on était soit du côté critique avec targeted assassination ou soit du côté plutôt en faveur de ces pratiques avec l'idée de preventive strikes, par exemple. Donc, pourquoi choisir assassinat ciblé en France ? Alors déjà, parce que c'était un terme que j'ai retrouvé donc, au début de cette recherche, qui était 2013-2014, dans les articles de presse, mais aussi dans les rapports de l'ONU. Donc ça, il me paraissait intéressant d'utiliser la formule que les praticiens utilisaient. Enfin, ce n'était pas vraiment les praticiens, puisque l'armée française, évidemment, préfère le terme d'élimination ciblée. Et aussi parce qu'il me semblait par ailleurs utile de rappeler ce qui, à mon sens, fait la spécificité des assassinats ciblés dans la boîte à outils des moyens qui sont à disposition de l'armée, qui est une rencontre justement entre l'assassinat politique et le bombardement stratégique, en fait. Donc, assassinat ciblé, oui, c'est un pléonasme, puisqu'un assassinat est par définition ciblé, et ça met justement en lumière la côté personnalisation de cette pratique à l'extrême, qui joue aussi en sa faveur. C'est pas une position a priori sur la pratique, puisque si vous me demandez aujourd'hui si je suis en faveur ou contre les assassinats ciblés, après des années de recherche, je ne pourrais pas vous dire que je suis en faveur ou que je suis contre, donc ce n'est pas une condamnation directe, mais il me semblait intéressant de quand même rappeler que toute la littérature en fait, qui irrigue ce questionnement sur la légitimité de cette pratique, c'est une littérature qui est aussi ancrée dans les assassinats politiques. Et à mon avis, c'est une erreur de parler d'élimination ciblée, une erreur qui est malheureusement partagée par beaucoup d'universitaires, parce que justement on se prive de discuter toute une partie du problème qui est celui des assassinats politiques et qu'il ne faut pas renier.
Alors, on va revenir sur cette notion d'assassinat politique, parce que c'est ce qui fait la généalogie, ce que vous montrez, c'est ce qui fait la généalogie, en tout cas des représentations qu'on a de cette pratique aujourd'hui. Mais simplement, juste pour rester vraiment sur les détails très concrets, par ailleurs, on va évidemment y revenir, mais pourquoi ces deux pays-là ? Pourquoi Israël et les États-Unis ?
Voilà, donc une autre question est effectivement très intéressante et qui, là aussi, m'a été quand même reprochée, surtout par des Israéliens, étrangement. Mais quand j'ai commencé donc cette recherche, la France ne communiquait absolument pas sur ce type de pratique. Je pense que ces pratiques n'étaient pas encore théorisées en France. Et donc, pour moi, c'était intéressant de suivre, en fait, l'évolution des assassinats ciblés, d'abord en Israël, parce que c'est les Israéliens qui ont inventé, ils n'ont pas inventé évidemment le fait de tuer son ennemi, puisque tous les États ont toujours tué leurs ennemis, soit de manière clandestine, soit de manière moins discrète, on va dire. Mais ce qu'ils ont inventé, c'est la doctrine juridique. La justification juridique de qu'est-ce que c'est au regard du droit international un assassinat ciblé. Et les États-Unis en 2001 condamnent cette pratique par la voix de l'ambassadeur américain en Israël et qui déclare voilà, les assassinats ciblés sont une pratique illégale aux yeux des États-Unis et nous ne les pratiquons pas. Or, on voit aujourd'hui qu'il y a eu évidemment un retournement et un changement de politique, puisque les États-Unis aujourd'hui utilisent cette pratique à beaucoup plus grande échelle que ne le fait Israël. Donc ce qui m'intéressait, c'était justement le changement d'une pratique illégale à une pratique légale. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ouais, donc c'est en quelque sorte, vous étudiez à la fois les pionniers, les Israéliens, et les principaux praticiens aujourd'hui de ça, qui sont les États-Unis, qui sont de très loin ceux qui le font le plus.
Voilà, tout à fait. Et sachant que, cela dit, quand j'ai terminé, justement, c'était assez intéressant parce que j'étais en train de rédiger la conclusion du livre, et justement, Florence Parly, donc la ministre des Armées, annonçait que la France allait armer les drones. Donc, il faudrait faire un tome 2, justement, sur la France pour voir quelle est la place de la France, en fait, entre ces deux modèles différents, le modèle israélien, le modèle américain.
Alors, on va en reparler, on va reparler de l'extension actuelle et de la manière dont ça se concrétise, mais simplement, puisqu'on a commencé, il faut en faire un peu la généalogie. Comment dire, comment et quand est-ce que ça change, quand est-ce que ça apparaît ? Ce que je veux dire, c'est que vous l'avez dit, je l'ai rapidement suggéré aussi, mais éliminer des ennemis, même si c'est pas forcément dans le cadre d'une bataille rangée, c'est pas un concept radicalement nouveau D'une manière générale, on ne va pas remonter aux pratiques et à l'éthique de la guerre antique ou médiévale. Enfin bon, ça existe toujours et c'est même très courant. Mais vous, ce que vous montrez, ce que vous identifiez, c'est qu'au contraire, en tout cas en Occident, on sort, en fait, avec la période contemporaine, on sort d'une période assez longue, de plusieurs siècles, depuis le XVIIe siècle, où l'assassinat, en tout cas l'élimination d'un acteur politique, donc l'assassinat politique, en quelque sorte, est en fait assez mal perçu.
Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, c'est aussi un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que l'assassinat politique aujourd'hui jouit d'une très mauvaise presse, suite en fait au scandale des années 70.
Alors juste assassinat politique, il y a toujours un peu une ambiguïté dans l'expression, parce qu'on se dit assassinat politique, c'est assassinat d'opposants politiques. Faut préciser qu'assassinat politique, en l'occurrence, ça peut être pris totalement dans un contexte international, c'est-à-dire éliminer un responsable militaire ou politique d'un autre pays pour l'affaiblir, quoi.
Voilà, exactement. En fait, l'ONU, eux, ils utilisent la terminologie de exécution extrajudiciaire. Et ça sous-entend vraiment que, justement, c'est extrajudiciaire, donc c'est en dehors du cadre du droit, et donc c'est présumablement illégal. Enfin, c'est supposément illégal. L'assassinat politique, ça peut être à la fois à l'intérieur d'un pays. Par exemple, on peut imaginer un État qui décide d'utiliser justement les services de protection de l'État pour éliminer des opposants politiques qui sont leurs concitoyens. Mais on peut aussi imaginer un État qui utilise les mêmes services de protection de l'État pour éliminer des dirigeants étrangers ou des hommes politiques étrangers qui sont perçus comme contraires aux intérêts nationaux de cet État. Et ça, c'est par exemple les tentatives d'assassinat de Fidel Castro, par exemple, par les États-Unis. Un cas typique.
Et donc ça, l'idée, c'est que c'est mal perçu, c'est vu comme contraire aux, disons, aux bonnes pratiques internationales depuis le milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire depuis un peu l'existence d'une société des princes, enfin, l'idée qu'on peut vivre en société réglée entre nations. Bon, ça fait partie des choses qu'on n'est pas censé faire.
Voilà, exactement. En fait, il y a deux histoires qui se croisent, parce qu'il y a à la fois cette genèse d'un assassinat politique qui était au départ vue comme quelque chose de légitime. C'est-à-dire qu'on pouvait recourir à l'assassinat et ça faisait partie de la boîte à outils politique. Et comment ça s'arrête, cette histoire de l'assassinat vu comme quelque chose de positif? C'est justement avec la paix westphalienne et l'idée que l'État a le monopole de la violence légitime et que pour préserver une stabilité à l'intérieur d'un système d'État qui sont considérés comme égaux, ou en tout cas comme souverain, eh bien, il faut justement bannir la violence, ce type de violence de la politique. Et d'ailleurs, au même moment, on a une conception de la guerre comme une faillite de la politique, vous voyez, qui prend sa source.
Mais alors, ce qui est très intéressant, du coup, c'est que, pour autant, évidemment, ça ne s'arrête absolument pas. Le fait de faire assassiner, d'éliminer des opposants dans d'autres pays. Simplement, puisque ça devient plus une catégorie légitime de, disons, de gouvernement, ou en tout cas de mener la guerre ou la politique, ça devient secret et clandestin, puisque c'est mal perçu. Donc c'est en quelque sorte, la pratique, évidemment, il faut le répéter, elle est à peu près intemporelle. Simplement, il y a un moment où ça part dans l'ombre, disons, et c'est évidemment le contexte général dans lequel on opère, même au sein du long XXe siècle, puisque ça existe évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, comme pendant la guerre froide. Simplement, ça n'est pas dit et reconnu, et d'ailleurs, vous insistez par exemple sur un moment historique qui est ce qu'on appelle le programme Phoenix au cours de la guerre du Vietnam, dont il faut peut-être dire un mot, parce que c'est une sorte de représentation parfaite à la fois de ces pratiques d'élimination ciblée, des manières dont elles ne sont pas reconnues et des problèmes qu'elles posent.
Oui, tout à fait. Enfin, juste, c'est le fait que ça a toujours existé, les assassinats, ça ne veut pas dire que ça a toujours eu la même échelle. Oui, ça part dans l'ombre, mais il y a aussi une réduction en termes d'échelle. Et effectivement, la Seconde Guerre mondiale, c'est un moment intéressant parce que c'est là où on a quand même une première fissure qui se passe sur le recours, la légitimité du recours à l'assassinat. Par exemple, on peut voir toutes les discussions sur l'assassinat de Heydrich, qui rejoignent aussi d'ailleurs les discussions sur l'extrême urgence, c'est-à-dire est-ce qu'on peut finalement relativiser des interdits moraux à des fins stratégiques. Là, j'ai en tête la question du bombardement des civils. Et sur le programme Phoenix, oui, alors donc ça, c'est vraiment un des premiers tests, en fait, d'une politique d'assassinat ciblé à grande échelle, puisque l'idée du programme Phoenix était donc de faire travailler conjointement justement l'armée et la CIA pour cibler des personnes qui étaient bénéficiaient de positions importantes dans les institutions Vietcong, enfin pas dans les institutions mais dans les organisations Vietcong, et justement essayer de décapiter l'organisation en pratiquant l'élimination de ces personnes. Et là on voit donc la pensée stratégique qui est vraiment donc de connaître l'ennemi, de personnaliser les frappes et de les priver en fait de compétences l'organisation qui est en face tout en la démoralisant. Et on voit aussi les premiers écueils de ce type de politique, mais qui vont ensuite être corrigés, et notamment la question du ciblage. Comment on fait pour cibler correctement les personnes à éliminer?
Ouais, mais alors du coup, c'est là qu'on perçoit, je pense, vraiment autant, qui est très stimulant, c'est que la rupture est pas dans un usage qui est radicalement nouveau, qui est peut-être dans un changement d'échelle de ces pratiques, mais en tout cas dans une justification qui est forcément nouvelle, puisque après cette période, après la guerre froide et disons la période qui vient de s'ouvrir, ça augmente tellement en échelle qu'on est obligé de développer un discours dessus. Donc je vais revenir à ma question. Quand et pourquoi est-ce que ça change? À quel moment est-ce qu'on entre dans cette nouvelle ère, cette ère où les assassinats deviennent plus nombreux et plus publics au point qu'il faille les justifier?
Donc si on laisse de côté la question de la CIA et des scandales des années 70, à mon avis, il y a deux facteurs qui expliquent en fait pourquoi les assassinats aujourd'hui sont sur le devant de la scène et pourquoi, à mon avis, ils vont y rester. Le premier, c'est l'individualisation en fait de la politique et le fait que les armées, pour les armées professionnelles, et d'ailleurs pas que pour les armées puisque ça marche aussi pour les services action des services secrets, la perte d'hommes est très difficile à justifier. À la justifier politiquement, mais aussi à justifier émotionnellement, si l'on peut dire. Donc, du coup, les États vont avoir tendance à vouloir minimiser leurs pertes. Par ailleurs, comment on minimise ces pertes? Eh bien, au lieu d'envoyer un commando, vous envoyez un drone ou vous envoyez un hélicoptère. Le problème du drone et de l'hélicoptère, c'est que c'est quand même des technologies qui sont possédées à grande majorité par des États. Donc, du coup, vous devez quand même justifier pourquoi vous envoyez un hélicoptère, pourquoi vous envoyez un drone. Et ça, typiquement, dans le cas israélien, c'est exactement ça qui s'est passé. En fait, c'est parce que Israël ne voulait pas risquer ses soldats et les envoyer à Gaza que du coup ils ont utilisé l'arme aérienne et que du coup Tsahal a créé donc cette doctrine juridique des assassinats ciblés. Donc ça c'est le.
Donc
le...
ça on peut placer ça à quand exactement pour Israël?
Seconde Intifada.
La seconde Intifada donc à partir de 2000. Mais alors pour autant ce que vous montrez aussi c'est qu'il y a aussi une histoire d'Israël qui en quelque sorte pas autorise ça, mais en tout cas rend, disons, l'émergence de ces assassinats un peu plus facile peut-être en Israël qu'ailleurs, puisque Israël a un passé, depuis la création d'Israël, d'assassinats de personnages qui sont perçus comme défavorables à, disons, la cause sioniste.
Tout à fait. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a deux questions, en fait, dans ce que vous dites. Il y a à la fois le pourquoi on a un passage d'une pratique secrète à une pratique publique, et ça, c'est lié justement au coût de la vie humaine, et pourquoi on a un passage d'une pratique interdite, immorale, à une pratique justement qui est vantée comme morale. Et le sionisme, effectivement, donc dès les racines du sionisme, il y a l'idée que... En fait, le nouveau juif, le juif sioniste, doit rompre avec la mentalité de Galout, c'est-à-dire la mentalité de l'exil, et doit pouvoir prendre en charge lui-même sa défense, sa propre défense. Donc il ne faut pas que, justement, il attende de l'État dans lequel il réside, comme ce qui était le cas des juifs en exil, d'être défendu, mais au contraire, il faut qu'il prenne lui-même les moyens de sa propre défense, et ça peut passer éventuellement par l'assassinat.
Et donc ça, c'est des constructions idéologiques qui sont présentes dans l'Israël depuis la création donc, de 48, dans les années 50-60, dans aussi les guerres israélo-arabes. C'est cette idée, cette mentale, l'idée de faire émerger presque un nouveau juif.
Oui, tout à fait, exactement, le nouveau juif. Et d'ailleurs, le nouveau juif, il y a même un nom, c'est le Tzabar, qui veut dire en hébreu, en fait, le figuier de barbarie. Pourquoi ? Parce que justement, les figuiers de barbarie, donc c'est les figues de barbarie, c'est une plante qui pousse dans le désert, donc dans un contexte dur, qui a des épines en dehors, mais qui produit également des fruits qui sont délicieux. Et donc ça, c'est l'image du nouveau juif israélien. Et d'ailleurs, par exemple, l'assassinat de Bernadotte intervient dès 1948.
Donc l'assassinat de Bernadotte, c'est l'assassinat du comte Bernadotte, voilà, qui est un envoyé de l'ONU pour préparer une séparation de l'ancien mandat de l'ONU. Et qui est perçu comme étant défavorable à Israël, ou en tout cas comme défavorable à Israël, et qui du coup se fait éliminer, je crois que c'est par l'Irgun. C'est-à-dire un des organismes, disons, terroristes des mouvements sionistes de cette époque-là.
C'est ça. En fait, c'est par les membres du LERI. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces membres du LERI vont ensuite... le groupe va être dissous suite à cet assassinat, mais ils vont quand même accéder aux plus hautes fonctions de l'État israélien. Ce qui montre que le discours sur l'assassinat peut être différent de la manière dont les sionistes pensent la moralité justement de ces assassinats ciblés. Et ensuite, il y a Golda Meir qui théorise, elle, après 1972, et donc la prise d'otages des athlètes israéliens à Munich et leur exécution, qui théorise, elle, l'idée qu'aucun crime contre un juif ne saurait rester impuni. Et que donc, il faut venger ces morts, quitte à, justement, ou pas quitte, mais en allant chercher toutes les personnes qui sont responsables.
Donc si j'essaye de résumer... En Israël, donc, il y a à la fois quelque chose qui est propre à l'histoire du sionisme et en même temps à l'idéologie qui se développe dans le jeune État d'Israël, c'est-à-dire l'idée que le juif nouveau doit se défendre, doit répondre, doit, si besoin, éliminer les opposants à la cause, disons, d'Israël, en tout cas d'Israël tel qu'il est perçu par ces sionistes-là. Donc, en quelque sorte, un terreau favorable à ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire au moment de la deuxième intifada, développement quoi donc d'assassinats ciblés par bombardement déjà et qui prennent une dimension telle que ça devient quasiment une politique affichée, c'est ça?
Voilà. En fait, avant, donc il y avait effectivement l'idée qu'on pouvait éliminer les ennemis d'Israël. Et d'ailleurs, la réputation des services israéliens, elle est construite sur ça. Et ce qui se passe pendant la seconde intifada, c'est que il y a une volonté, donc comme je l'ai dit, de préserver la vie des soldats. Donc, dans les interviews que j'ai fait, dans les entretiens avec les membres de l'armée israélienne, ce qu'ils m'ont dit, c'est que cette pratique, elle existait, mais elle n'avait pas de nom spécifique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les opérationnels sont allés voir le service juridique de Tzal et leur ont dit, voilà, nous, ce qu'on aimerait faire, on a une liste d'individus et on aimerait aller les cibler parce qu'on pense que c'est ça qui va permettre justement d'arrêter la seconde intifada. Est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas ? Et c'est comme ça que la doctrine des assassinats ciblés juridique, donc conçue par l'armée israélienne de Sikoul Memoukad, a été créée. Voilà, donc la différence, c'est simplement qu'il y a eu un nom, qu'elle a été théorisée. Et pourquoi elle a été théorisée ? Parce que justement, dans le contexte de la seconde intifada, Israël était sur les feux de la rampe et devait produire un discours aussi médiatique afin de ne pas perdre l'opinion internationale.
Donc, nouvelle politique, nouvelle pratique en tout cas, disons, pratique assumée aux yeux de la communauté internationale. Et passons peut-être maintenant du coup au deuxième pôle de votre enquête, puisque il y a une sorte de corrélation temporelle, quoi. Enfin, il y a une sorte d'enchaînement temporel qui est assez confondant. Vous l'avez dit tout à l'heure, les États-Unis commencent par condamner cette politique fraîchement théorisée par Israël. Et alors, faut peut-être expliquer aussi pourquoi les États-Unis avait une position si négative par rapport à ça, c'est, on en a un peu parlé tout à l'heure aussi, mais c'est aussi le passif des scandales de la CIA pendant la guerre froide, qui faisait que, bon, naturellement, les États-Unis avaient une réputation dont ils essayaient de se détacher à cette époque-là.
Voilà, exactement. En fait, ce qui s'est passé donc, dans les années 70 avec la CIA, qui justement a mené des programmes d'élimination qui sont d'ailleurs, quand on regarde exactement les détails, qui sont quand même assez fantaisistes et qui sont assez inquiétants sur la rationalité des personnes qui menaient ces programmes. Donc il y a eu vraiment une volonté...
Et donc ça, c'est les programmes en Amérique latine, c'est les renversements en Amérique latine, c'est les X tentatives d'assassiner Fidel Castro avec ses cigares, c'est,
voilà, tout à fait.
C'est le programme Phoenix dont on a parlé.
Voilà. Et donc, il y a un executive order, qui est en fait donc un ordre présidentiel, qui est décidé par l'administration et qui est renforcé au fil des administrations, d'interdire à toute personne qui travaille dans l'administration américaine de participer à un assassinat. Donc, c'est écrit noir sur blanc.
Donc, ordre, donc c'est l'ordre 11905 qui date de 1977. Donc, à partir de 1977, la position officielle des États-Unis, c'est on n'assassine pas.
Et c'est même interdit et illégal, sachant que la légalité aux États-Unis, c'est assez important.
Donc, ce qui explique pourquoi, au tournant de 2000-2001, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les États-Unis, spontanément, la première réaction, c'est de condamner cette nouvelle pratique israélienne. Mais... évidemment, quand on parle de la phase 2000-2001, évidemment, on se doute de ce qui va arriver, quel va être le grand événement qui chamboule tout. Naturellement, c'est le 11 septembre qui rebat un peu les cartes sur tout, à la fois l'image que les États-Unis ont d'eux-mêmes, mais aussi de leurs ennemis, j'imagine.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une question d'image. Et ce que j'ai voulu interroger dans ce livre, c'est vraiment la question de la justification et des discours qu'ont les États sur leur propre utilisation de la force, parce qu'on voit à quel point ça a une importance. Parce que quand on regarde dans les textes, dans les textes légaux, en réalité, cet executive order, il avait déjà été amendé. Il avait été amendé pour justement exclure tous les cas de terroristes. Donc c'était déjà possible pour l'État américain d'aller éliminer justement des terroristes. Et d'ailleurs, il y a eu justement toute cette controverse sur la décision de Clinton d'éliminer ou pas Oussama Ben Laden. Mais ce qui était possible également.
Et oui, donc c'est très intéressant. C'est que c'est là qu'on voit exactement où se situe le problème. C'est pas tant dans les pratiques que dans les discours de justification. C'est-à-dire, voilà. C'était possible pour Clinton... donc dans les années 95, 96, 97, d'aller éliminer Oussama Ben Laden, c'était possible juridiquement, mais quand même, ça n'a pas été fait, et ça n'a pas été fait, on peut conjecturer, à cause du fait que l'assassinat était, bon, légalement, même s'il y avait des entorses, mais surtout intellectuellement, dans les représentations hors des pratiques, disons, légitimes.
Voilà, et c'est exactement ça ce qui s'est passé. Et ça montre aussi à quel point les représentations des hommes politiques affectent leur propre conception de la politique et ce que eux-mêmes font. Puisque, en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que donc, vous avez eu le Watergate, et il y a eu tout le développement du cinéma du complot, enfin vraiment cette idée qui est aussi ancrée dans l'histoire des États-Unis, qu'il faut surtout limiter les pouvoirs de l'État fédéral, qu'il faut garantir les droits des citoyens et que quand on donne justement un chèque en blanc aux institutions fédérales, elles font n'importe quoi. Donc pour être élu, il fallait vraiment dire qu'on respectait les droits du citoyen, la liberté individuelle et que donc, voilà, et la transparence, etc., etc. Ce qui change en 2001, c'est qu'au contraire, la population américaine, l'opinion publique, a une demande d'un État fort. D'un État fort qui les protège et qui n'hésite pas à utiliser justement les moyens qui sont ceux des États-Unis pour les protéger à l'extérieur.
Ouais, mais alors c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que donc les assassinats ciblés deviennent non seulement acceptables, mais acceptés, voire même désirés par l'opinion publique à partir de 2001. Mais ce que vous soulignez, c'est que en fait, il y en a assez peu au début des assassinats ciblés. Et que paradoxalement, si on accepte le fait que les assassinats ciblés, c'est pas, ils sont pas apparus en 2001, pas plus qu'en 2000, voilà, et que c'est au niveau de l'usage et au niveau, disons, des dimensions que ça prend, que, qu'a lieu la véritable rupture, bah, ça, ce que vous soulignez, c'est que la rupture, elle n'a pas lieu sous George Bush, comme on pourrait s'y attendre, comme on s'y attend logiquement. Elle a lieu, au contraire, bien plus tard, elle a lieu sous Barack Obama, prix Nobel de la paix, faut-il le rappeler.
Voilà, exactement. Prix Nobel de la paix et juriste de formation. Ça, ce qui est un point très important. Et c'est aussi ce que j'ai voulu souligner dans mon livre, c'est le rapport ambigu entre droit et assassinat ciblé. Et assassinat, d'ailleurs, d'une manière générale. Donc, ce qui s'est passé, effectivement, c'est que George W. Bush, lui, il était quand même toujours sur le logiciel intervention armée grande échelle, boots on the ground, voilà, on y va, et on fait une intervention armée, et les opérations de petite échelle, qui, en plus, s'appuient sur la CIA, tout ça, on sent que c'est pas dans son logiciel de... Dans son logiciel sur justement les moyens qui sont appropriés pour la lutte contre le terrorisme. Alors que Obama, lui, au contraire, quand il arrive au pouvoir en 2009, donc déjà, il a une très bonne connaissance du droit international. Il a cette distinction entre les guerres de nécessité et les guerres de choix, qui va vraiment structurer justement toute sa volonté donc de retrait en Irak, notamment. Et la condition, en fait, pour justement distinguer guerre de nécessité et guerre de choix, c'est aussi de s'autoriser à faire des interventions très limitées, précises, et qui sont permises aussi par le drone armé. Donc on passe de moins de 100 frappes sous George W. Bush à, je me souviens plus du chiffre exactement, mais c'est vraiment très réduit, c'est 60, 64, quelque chose comme ça. Milliers et des milliers de personnes ciblées sous Obama. Je crois que le dernier, pour les deux mandats Obama, donc frappe connue dans les évaluations des personnes qui ont été ciblées, on est plutôt au-dessus de la barre des 5000 personnes. Sachant qu'évidemment, les évaluations sont assez difficiles parce qu'elles sont faites par des organisations de défense des droits de l'homme dans des conditions qui ne sont pas forcément évidentes.
Oui, alors le chiffre que je viens de retrouver dans votre ouvrage, c'est sur le territoire du Pakistan, 44 frappes sous le mandat de George Bush contre 264 rien que sur le premier mandat d'Obama.
Mais alors, seulement sur le Pakistan.
Et seulement sur le Pakistan, toujours. Mais justement, ça m'amène à une question qui est... C'est parce que j'ai beaucoup cherché des chiffres dans votre ouvrage et j'ai eu un peu de mal à les trouver. Et j'imagine que c'est parce qu'ils ont. Vous avez commencé à expliquer pourquoi, mais on a du mal à les trouver, c'est difficile à quantifier. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut avoir un peu un ordre d'idée de où on en est, enfin, combien il y en a, même à la louche, quoi, sur une année, sur un mois, sur plusieurs années, de ces éliminations ciblées pour les États-Unis, j'imagine que c'est plus facile, mais pour Israël aussi.
Pour les États-Unis, de personnes tuées lors de frappes ciblées, on est autour de 8000. Sachant que...
8000 sur quelle période ?
Depuis le début des assassinats ciblés. Donc, depuis le début. Donc, la première frappe, c'est 2002, je crois, ou 2001. Donc, ça, c'est fait par plusieurs organisations, notamment le Bureau of Investigative Journalism, qui fait vraiment un travail remarquable. Sachant que j'ai fait des entretiens avec les personnes qui s'occupent de la comptabilité, une comptabilité assez macabre. Et c'est très difficile pour eux parce que c'est toujours dans des endroits qui sont difficiles d'accès, donc où même eux, ils n'ont pas forcément d'accès, par exemple au Yémen, en Somalie. C'est plus facile justement dans le cas du Pakistan parce que les zones tribales sont assez bien couvertes par les ONG. Donc, elle s'appuie sur des relais locaux, des coupures de presse, mais c'est pas toujours évident. Il faut ensuite démêler le vrai du faux dans les estimations, puisque si on prend... Il y a toujours estimation basse, estimation haute, et le hiatus entre ces deux estimations est vraiment très important. Et en plus, il y a aussi une difficulté d'identifier les corps, de savoir qui exactement est tué.
C'est-à-dire en plus, ce dont on reparlera, mais la bipartition entre frappe réussie et dommages collatéraux, oui, de civils autour.
Oui, mais ça, on est même si on n'est même pas dans la justification de qui exactement est tué, juste de compter le nombre de personnes, c'est pas forcément évident.
Ah, et vous quand voulez dire c'est parle... de manière particulièrement macabre quand il y a une frappe de missile Hellfire, enfin de missile lancé par un drone, c'est difficile de réussir à reconstituer combien de gens ont été tués.
Voilà, parce que c'est difficile de reconstituer les corps. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé justement la même question à l'armée américaine...
Oui, c'est-à-dire c'est eux devraient savoir.
Eh bien non. Ouais. Eux, leur réponse, c'est qu'en fait, on découvre qu'ils ne savent pas exactement qui ils tuent. Et qui exactement est tué. Parce que c'est pareil, c'est toujours assez difficile d'identifier les corps, surtout que l'armée américaine n'est pas forcément présente sur les théâtres d'opération. Donc, ils s'appuient sur des images qui sont notamment prises par des drones, éventuellement par des équipes qui sont déployées sur le terrain, mais pas dans tous les cas. Et du coup, c'est pas forcément évident de savoir exactement, qui est tué, quand, pourquoi. Donc, la question des chiffres, et en plus, de cette difficulté juste dans la épistémique dans la manière de récolter des informations. En plus de ça, il y a évidemment les cultures du secret qui s'appliquent, sachant qu'aux États-Unis il y a plusieurs programmes d'assassinat ciblé qui sont différents. Il y en a qui sont faits par l'armée, il y en a qui sont faits par la CIA, il y en a qui sont faits en coopération sous l'égide du JOSC. Donc du coup c'est aussi difficile de s'y retrouver, et ça c'est par exemple des problèmes les plus importants pour les gens qui travaillent à l'ONU, pour les rapporteurs en fait de l'ONU sur ces questions, qui sont perdus en fait dans le dédale des administratifs des États-Unis. Sachant qu'en Israël c'est beaucoup plus facile.
Oui, c'est ça, j'allais dire. Et du coup en Israël on imagine que c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur, mais est-ce qu'on sait combien ?
Alors en Israël, en fait en Israël il y a eu un changement sur cette pratique des assassinats ciblés. Elle a été utilisée effectivement lors de la seconde intifada, et depuis elle a été beaucoup moins utilisée. Et en fait maintenant la manière dont on utilise dans le cadre israélien les assassinats ciblés, c'est en général avant une opération terrestre. Donc les grands assassinats ciblés, maintenant, ils sont quand même assez vieux. Et de temps en temps, il y a une frappe, par exemple, notamment sur Mohamed Deif, qui est un dirigeant du Hamas qui a échappé de nombreuses fois à Tzahal, et qui du coup, on dit qu'il a les 9 vies d'un chat. Donc lui, il y a quand même des frappes, mais sinon, il y a très très peu de frappes qui sont faites par l'armée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éliminations qui sont faites par le Mossad. Mais ça, ce n'est pas exactement la même chose, parce que ça ne tombe pas sous la même juridiction.
Alors, évidemment, donc il y a ces frappes, il y a les justifications qui sont construites et déployées autour de ces frappes, et comme je l'ai dit, c'est une grande partie, peut-être le cœur de votre ouvrage, que de les analyser et de les remettre en perspective. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle un peu de la question qui est évidemment centrale, et elle aura aussi un rôle dans les constructions argumentaires, on le verra, c'est celle de l'efficacité, c'est-à-dire, est-ce que ça marche ? Ces éliminations ciblées, est-ce que ça marche d'un point de vue militaire, est-ce que ça marche d'un point de vue tactique, est-ce que ça marche d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire à la fois sur le moment et à plus long terme. Alors évidemment, je me doute bien que ça va être compliqué de répondre, puisque on vient d'en parler, il y a un problème pour trouver des chiffres, il y a un problème pour identifier les victimes, donc c'est difficile d'identifier exactement l'efficacité de tel ou tel assassinat ciblé, telle ou telle frappe, voire même peut-être telle ou telle campagne de frappe. Mais bon, est-ce qu'on peut essayer de poser un constat ?
Oui, complètement. En fait, déjà, il y a eu quand même une évolution sur les pratiques et il y a eu des leçons qui ont été tirées. Donc, si on replace cette question de l'efficacité sur la durée, on voit qu'aujourd'hui, elles sont plus efficaces, je dirais, les campagnes à grande échelle d'assassinats ciblés, que celles menées tous azimuts du début. C'est vrai dans le cas israélien, mais c'est aussi vrai dans le cas américain. On peut dire qu'il y a une efficacité tactique qui est importante. Pourquoi ? Parce que faire une frappe, ça permet donc de doter des compétences décisives à l'organisation. Ça permet de dissuader...
C'est-à-dire d'éliminer quelqu'un qui sait faire quelque chose de très précis pour une organisation qui veut faire une tâche très précise. Donc ça permet en quelque sorte de faire sauter un maillon de la chaîne.
Voilà. Par exemple, Israël a éliminé... une des personnes qui était suspectée d'être un ingénieur pour faire des drones pour le Hezbollah en Tunisie. Bon, bah ça, voilà, c'est des compétences qui sont assez spécifiques et ça retarde les programmes de construction de drones du Hezbollah d'une manière quand même assez importante. Donc ça, oui, ça marche au niveau tactique. Ce qui marche aussi, c'est que ça complique les communications entre les différents membres de l'organisation, et puis ça dissuade aussi, d'une certaine manière. Après, l'efficacité tactique, elle doit être replacée dans le contexte plus général de la stratégie. Et il me semble que c'est très important d'avoir un débat, en fait, sur les assassinats ciblés, sachant qu'en France, on n'en a quasiment pas, précisément parce que tout ne se résout pas au niveau tactique. Et donc, du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à la fois une...
Mais alors, juste, il faut le dire, parce qu'il faut peut-être replacer tout ça, dire que c'est dans le contexte de ce dont on parle assez régulièrement dans le podcast, c'est dans un contexte de contre-insurrection. Ouais. Puisque les assassinats ciblés, c'est contre qui ? Bah, c'est contre eux, des terroristes, ou ceux, en tout cas, qu'on identifie comme des terroristes. Donc, la lutte contre le terrorisme, c'est la lutte contre-insurrectionnelle. Et donc, la lutte contre-insurrectionnelle... On peut en débattre, mais il y a une dimension de dissuasion, c'est sûr, mais il y a aussi une dimension fondamentalement politique, c'est-à-dire pour dissuader une insurrection, ça implique de gagner les esprits et les cœurs, pour reprendre l'expression consacrée, quoi. Donc de ce point de vue-là, l'échelon tactique doit s'inscrire dans un échelon politique qui est, disons, consubstantiel à la contre-insurrection.
Oui, tout à fait. Mais c'est pas seulement de la contre-insurrection, c'est aussi de l'antiterrorisme et du contre-terrorisme. Et parfois, les deux niveaux se recoupent pas. Et d'ailleurs, toute guerre est à un niveau politique. Hein. Enfin, je pense pas qu'il y ait d'indépendance de l'échelon militaire. Mais en tout cas, sur ce qui est de la question de l'insurrection et de la guerre contre le terrorisme, le problème, c'est que la plupart des hommes politiques ont tendance à justement vouloir trouver une solution, soit qu'on soit dans le cadre d'une insurrection, par exemple, type seconde intifada, soit qu'on soit dans le cadre d'une insurrection qui utilise des moyens terroristes, soit qu'on soit carrément dans le cadre du terrorisme, comme c'est le cas en France. Donc ces hommes politiques, ils ont tendance à vouloir rassurer l'opinion et à trouver une solution un petit peu miracle à ça. Et les assassinats ciblés peuvent, à premier abord, servir d'outils de communication en disant « Regardez ce qu'on fait, on fait des frappes, on utilise des drones, en plus ça rassure la technologie, on arrive à se déployer à des milliers de kilomètres, on sait précisément qui est notre ennemi et on sait précisément qui fait quoi dans l'organisation, qui est où, et voilà. » Donc ça permet effectivement de rassurer l'opinion publique. Mais le problème, c'est que les assassinats ciblés ne sont pas justement la solution miracle que les politiques aimeraient qu'elles soient. Et finalement, quand on regarde dans le temps, c'est pas ça qui permet de dissoudre une organisation. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire que oui, les assassinats ciblés, ça marche sur des objectifs tactiques circonscrits. Mais c'est pas, ça ne peut pas être isolé, en fait.
Oui, mais c'est un argument qu'on a beaucoup employé pour critiquer, justement, ces frappes ciblées. C'est l'idée que, bah, notamment au Pakistan, au Waziristan, c'était le meilleur argument de recrutement pour, disons, les forces islamistes, les campagnes de bombardement états-uniennes, qui parfois font des bavures, voire des grosses bavures, et qui, du coup... disons, mettent en avant, enfin, remuent le mécontentement de la population, ce qui peut devenir autant d'outils de recrutement pour finalement ce que les États-Unis cherchent à éviter.
Oui, donc ça c'est vrai aussi, mais ça, il me semble que c'est pas non plus une critique très robuste, parce que finalement ça peut être géré en ayant un ciblage plus précis, en fait, et plus efficace pour le coup. Voyez, c'est-à-dire que oui, effectivement, quand on fait des dommages collatéraux, c'est sûr qu'on ne va pas gagner les cœurs et les esprits. Ça, c'est une évidence. Et donc, plus on fait de dommages collatéraux, plus on se met à dos une population. Est-ce que les dommages collatéraux font que la population elle est plus à dos contre les États-Unis qu'avant? C'est pas sûr non plus. Parce qu'on est quand même dans des contextes où les relais d'information au Pakistan, s'ils sont très anti-américains, je ne sais pas s'ils ont besoin d'en plus d'avoir des arguments pour convaincre, par exemple, des arguments de drones. Moi, je pense qu'au contraire, il y a une dimension dissuasive quand même importante, dans le sens où c'est quand même plus difficile de prendre des responsabilités dans une organisation type Hamas, type Hezbollah, quand on sait que ça veut dire qu'on va se condamner à vivre sous terre, etc. Et d'ailleurs, quand on regarde le contexte israélien et pas le contexte américain, les assassinats ciblés ont fait quand même décroître les attaques suicides. Donc les attaques terroristes, en fait, à l'intérieur d'Israël, sachant que c'est difficile aussi de départager entre les facteurs de cette baisse, si c'est seulement les assassinats ciblés ou si c'est aussi la construction du mur de sécurité.
Ouais, mais alors, un autre argument en continuité, c'est que, paradoxalement, un des outils de lutter contre des insurrections, c'est de renforcer l'autorité de l'État. Local, c'est-à-dire qui permet d'étouffer un peu ces résistances. Et un des effets que vous identifiez de ces frappes qui sont extraterritoriales, puisque l'intérêt des frappes, c'est qu'on va frapper sur des territoires étrangers, c'est que la conséquence, c'est d'affaiblir l'autorité de l'État sur place, au lieu de la renforcer. C'est-à-dire, par exemple, au Pakistan, les frappes américaines, évidemment, affaiblissent dans une certaine mesure l'autorité de l'État pakistanais. Pour si on essayait de chercher quelque chose d'équivalent en Israël, on pourrait dire que le fait qu'Israël puisse intervenir n'importe où en territoire palestinien affaiblit l'autorité palestinienne s'il y en avait encore besoin.
Voilà, exactement. Alors donc ça, c'est très intéressant, et je pense que c'est un... Oui, c'est vraiment une des questions clés des assassinats ciblés, c'est quel est l'effet sur la souveraineté. Donc là, je partage entièrement le point de vue qui pense qu'une des clés, justement, de la lutte anti-insurrectionnelle, c'est là le renforcement de l'État. Ça, c'est évident. Et donc, effectivement, il faut faire en sorte que les assassinats ciblés soient intégrés dans une... intègrent cette dimension, mais parfois ils peuvent le faire. Par exemple, dans le cadre du Yémen, les frappes, elles ont été faites en accord avec les frappes américaines, en accord plus ou moins, mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit avec le président yéménite, et ça servait vraiment justement à renforcer et à servir les intérêts de l'État yéménite contre l'insurrection. Donc parfois, ça renforce l'État, et parfois, au contraire, ça le fragilise, sachant qu'au Pakistan, il y a aussi un discours politique qui est assez hypocrite du pouvoir pakistanais, parce qu'ils ont connaissance des frappes, mais aussi ils les utilisent pour se distancier vis-à-vis des Américains, vis-à-vis de leur population à des fins purement électoralistes. Donc cette question, en fait, elle est vraiment très complexe de comment les assassinats ciblés impactent l'autorité de l'État, et elle doit être tranchée au cas par cas.
Ouais, mais alors donc on voit que ça, j'ai posé la question en me doutant bien, mais c'est vraiment une sorte d'imbroglio impossible d'essayer de déterminer l'efficacité des frappes ciblées. Encore plus, enfin, il faut rajouter en plus un dernier truc qui est que ça revient à chaque fois. S'exprimer là-dessus, ça revient à faire du contrefactuel, C'est-à-dire d'imaginer ce que seraient les choses si on faisait pas les frappes ciblées ou si on en faisait plus. Enfin bon, c'est impossible, disons, de trancher sur ce qui se serait passé sans ces frappes. Ou au contraire, et c'est un argument qui a été aussi justifié pour, utilisé pour justifier ces frappes, notamment aériennes, l'idée que si on n'avait pas ces frappes aériennes, bah, il faudrait faire autre chose, des invasions, des opérations commando, des opérations terrestres d'une manière générale, qui pourraient avoir des dommages encore pires. Donc on voit que c'est la difficulté de faire du contrefactuel, on n'aura jamais de réponse à ça, quoi.
Voilà, exactement, et ça c'est très important, et d'ailleurs le dernier argument que vous avez cité, l'idée que ce serait la solution la moins pire, à mon avis c'est vraiment un sophisme.
C'est un truc qu'on voit quasiment depuis la première guerre du monde, c'est l'idée de frappe chirurgicale, l'idée que la technologie fait gagner en précision, donc en humanité, ce qui est discutable, mais en tout cas c'est un argument, quoi.
Alors y a, attention, parce que effectivement, donc déjà le fait de dire les frappes de drones permettent d'éviter un déploiement à grande échelle, à mon avis ça c'est faux et c'est un sophisme. Pourquoi ? Parce que justement les frappes de drones, ça permet d'utiliser la force armée là où on ne pourrait pas aller faire la guerre. Donc ça ne permet pas, c'est pas si on n'envoie pas les drones, et ben on envoie l'armée. Non, justement, on envoie les drones dans des endroits où on n'aurait pas pu de toute façon envoyer l'armée. Vous voyez ? Par contre, sur le rôle de la technologie dans la guerre, ça c'est sûr que les drones, donc, qui sont un des moyens les plus spectaculaires pour réaliser des assassinats ciblés, ça participe effectivement du fait que y a un mouvement concomitant. De développement, en fait, du droit de la guerre et de la protection des civils, et donc avec des normes qui demandent, en fait, aux armées de cibler vraiment plus précisément et de commettre moins de bavures, et de la technologie de l'armement qui permet ça. Donc, effectivement, les drones, en ce sens-là, sont un progrès moral. Et la technologie dans la guerre, ça permet d'avoir un progrès moral. Le problème, et ça rejoint justement votre question sur la stratégie et la tactique, c'est que ça accentue l'asymétrie entre les belligérants. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des armées étatiques qui ont les moyens d'avoir des technologies de ciblage, des lasers, qui leur permettent d'utiliser une force qui soit beaucoup plus précise. Et de l'autre côté, on a des insurrections qui finalement se disent de toute façon, nous, on ne peut pas respecter le droit des conflits armés. Donc du coup, c'est le droit qui joue en notre défaveur. Donc c'est le droit des oppresseurs de l'Occident colonisateur. Donc du coup, pourquoi le respecter ? Vous voyez ? Et du coup, les assassinats ciblés, la question, à mon avis, fondamentale, c'est pas est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas ? Parce que ça, encore une fois, c'est du cas par cas. Et en plus, il n'y a pas de réponse définitive, comme vous l'avez dit, parce qu'on est dans le brouillard de la guerre. La question, c'est quel est l'impact sur nos valeurs qui sont au fondement de notre société et au fondement de ce qu'on aimerait être le système international, c'est-à-dire la légalité internationale et la moralité de nos sociétés.
Alors justement, venons-y maintenant à cette question donc si centrale à la fois des justifications et en même temps de la manière dont ces pratiques s'inscrivent dans un ensemble de valeurs. Alors En fait, on l'a déjà un peu abordé, cette question des justifications, en parlant de la question de l'efficacité, parce que c'est ce qu'on appelle généralement l'argument conséquentialiste, à savoir l'idée que la critique doit prendre en compte les résultats, et on a donc vu que c'était pas simple et à peu près indébrouillable. Mais pour vraiment entrer dans le dur, pour clairement identifier les problèmes et les solutions qui ont été plus ou moins trouvées à ces problèmes, j'aimerais simplement que vous nous expliquiez d'abord pourquoi il y a besoin de construire une justification. Même d'un point de vue juridique, quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de construire une argumentation légale, puis ensuite morale, pour justifier ces assassinats ciblés?
Alors, donc, le droit des conflits armés, il est basé sur l'idée que vous devez faire une discrimination entre des cibles qui sont légitimes et des cibles qui sont illégitimes, ou en tout cas des cibles qui sont légales et des cibles qui sont illégales. Et donc, les cibles légales...
Une caserne, c'est pas un hôpital, quoi.
Voilà, exactement. Donc la grande distinction, enfin le principe de distinction, c'est les civils et les combattants. Donc avant c'était assez simple puisque les armées régulières c'était les combattants et puis il y avait les civils de l'autre côté. Et voilà. Et donc l'ordre, en fait ce qui est en jeu dans tout ça, c'est l'ordre légal qui a été fait notamment après 1945 avec justement l'idée qu'il y avait des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et que les États pouvaient répondre devant des juridictions qui étaient internationales de leurs actes. Notamment, ensuite, évidemment, les procès de Nuremberg, mais aussi de Tokyo, mais aussi la création de la CPI.
Donc, la Cour pénale internationale.
Voilà, internationale. Donc, le problème, c'est que, effectivement, on est dans un monde qui est quand même plutôt structuré par des États, mais ces États sont contestés. Sont contestés, donc, par des insurrections. Et ces insurrections, elles ne bénéficient pas du statut de civil puisqu'elles n'ont pas de légitimité à participer au conflit puisqu'elles n'ont pas de monopole de la violence légitime. Donc d'après les conventions de Genève, elles peuvent quand même répondre à un statut de combattant en fonction de certains critères, si elles répondent à une hiérarchie, si elles ont leurs armes ouvertement, etc., etc.
Mais bon, globalement, le constat, c'est que c'est... on les mettrait plutôt du côté des civils et que, du coup, aller éliminer, aller frapper des civils, bah, ça pose un problème de droit, quoi.
Voilà, exactement. Après, il y a une manière d'y répondre, c'est... Enfin, pour le dire très, très concrètement, vous avez des théâtres de guerre où, il y a des combattants, même s'ils ne font pas partie d'une armée. Par exemple, Daesh... à Mossoul, les Français qui sont partis rejoindre les rangs de l'État islamique à Mossoul, quand ils sont là-bas avec leurs armes et leurs uniformes, bon, même si Daesh n'est pas un État, ce sont des combattants, il n'y a pas de problème pour l'armée française à faire des frappes de drones et à les cibler, même si en plus il y a des civils et des dommages collatéraux autour. C'est pas un problème, en fonction de la proportionnalité, bien sûr. Par contre, quand ce même combattant, il va passer en Turquie ou en Tunisie, pour rejoindre la France et pour faire un attentat, là, vous n'avez plus le droit de le cibler pour le droit international. Pourquoi ? Parce qu'il sort du théâtre de guerre. Donc à partir du moment où il sort de la Syrie et qu'il va, par exemple en Turquie, et ben là, c'est impossible de le cibler. Si vous le tuez comme ça en pleine rue, vous êtes passible de crime de guerre. Voyez ? Et donc les armées, elles sont face à ce problème-là. Et la réponse des Américains, qui est à la fois efficace de leur point de vue, mais qui est à la fois très inquiétante, c'est de dire nous, on considère que le champ de bataille se déplace avec le corps du terroriste. Et donc, en fait, le terroriste devient le champ de bataille. Donc, Oussama Ben Laden, qu'il soit au Pakistan, qu'il soit en Afghanistan, ou qu'il soit, en Guadeloupe, eh ben, on peut aller le tuer. Vous voyez ? Donc c'est ça.
C'est l'idée d'une guerre globale contre le terrorisme. Donc il n'y a pas de territoire qui soit hors cette guerre contre le terrorisme. Donc le champ de bataille est partout là où est le terrorisme.
Voilà, exactement. Et ça, ça pose aussi un problème vis-à-vis de la souveraineté des États sur lesquels se trouve ce terrorisme, puisque les États-Unis, ils considèrent qu'ils ont le droit de cibler et donc d'utiliser la force à partir du moment où, même si on est en dehors d'un théâtre de guerre, à partir du moment où l'État hôte n'est soit pas en mesure, soit pas volontaire pour prendre les mesures nécessaires. Donc ça veut dire que si vous êtes justement Oussama Ben Laden, vous êtes au Pakistan, et que le Pakistan n'est pas en mesure, ou alors rechigne à arrêter Oussama Ben Laden et à l'extrader, bien vous avez le droit d'utiliser la force. Mais ça, vous vous rendez compte que, par exemple, si on prend le cas de Snowden, Edward Snowden, est-ce que ça s'applique à lui aussi, en Russie ? Vous voyez, c'est ça le danger. C'est la porosité, en fait, de ce type d'interprétation légale qui fragilise, en fait, l'ensemble de l'édifice du droit de la guerre qui est basé sur la distinction civile-combattant et la question du champ de bataille.
Oui, alors il faut peut-être dire aussi un mot d'une notion assez technique, assez contre-intuitive, mais qui est importante, qui est mobilisée, qui est, ce qui est intitulé le droit à la légitime défense préventive. Ce qui est à la fois très intéressant comme concept et dont on perçoit assez bien que ça peut devenir rapidement très glissant, puisque la légitime défense, a priori, c'est face à un danger imminent. Donc à partir du moment où on mobilise l'idée qu'on peut prévenir une légitime défense, on voit mal où ça s'arrête.
Voilà, tout à fait. Mais ça, ça a été très utilisé en fait au début de la période pour justifier les assassinats ciblés. Et maintenant, ça a complètement disparu des radars. C'est-à-dire que quand on parle d'élimination ciblée ou d'assassinat ciblé avec des représentants soit de l'État israélien, soit de l'État américain, et qu'on évoque la question subtilement en France, plus personne ne va parler de cette dimension préventive. Mais au début de la période, c'était vraiment l'idée d'une ticking bomb, c'est-à-dire d'un terroriste quelque part qui prépare une méga attaque et qu'il faut absolument neutraliser pour prévenir cette méga attaque. Ça, c'est le discours politique. Et c'est un discours, d'ailleurs, qui a été très retranscrit dans 24 heures chrono, la série. En droit, vous avez une distinction entre préemptif et préventif. C'est-à-dire que préemptif, c'est quand vous êtes, par exemple, un État et que vous voyez à votre frontière se masser des troupes ennemies. Bon, bah là, on considère que vous n'êtes plus dans le registre préventif, vous êtes dans le registre préemptif parce qu'il y a des signaux quand même assez clairs que vous allez être attaqué. Voyez. Et le registre préventif, c'est quand vous avez simplement la suspicion. Et les États-Unis, le problème, c'est que quand on regarde les textes qu'on a sur cette question, notamment du département de la justice, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il leur suffit d'une simple présomption qu'un individu, quelque part, soit une menace pour les États-Unis pour pouvoir neutraliser cette personne.
Ouais, mais alors, ça nous amène vers une dernière dimension qui est... alors, on a bien compris que vous étiez relativement critique de ces appareils, ces constructions aussi bien juridiques que morales, enfin intellectuelles, pour justifier tout ça. Mais notamment, aussi, un des arguments que vous déployez, c'est à partir du cadre, en tout cas théorique et politique, qui est celui des démocraties libérales, c'est-à-dire ce que sont censés être les États-Unis certainement, Israël, bon, le qualificatif libéral peut être plus discuté, mais enfin, en tout cas, c'est censé être une démocratie, et Israël se vante beaucoup d'être une démocratie, donc on peut peut-être les juger à cette aune-là. Et ce que vous dites, ce que vous remarquez, c'est que ces assassinats ciblés-là posent de gros problèmes, malgré tout, dans le cadre de la construction politique qu'est la démocratie libérale, notamment par... Alors, il y a plein de choses, mais une des critiques, une des composantes, disons, de la démocratie libérale que vous identifiez, c'est la transparence, en tout cas une transparence théorique sur ce que fait l'État, sur... On n'est pas obligé de... La transparence n'est pas obligée d'être omniprésente, mais au moins théorique. Et un des problèmes auquel vous faisiez référence à l'instant, c'est que, mine de rien, en fait, les organismes qui sont responsables de ces éliminations ciblées ont assez peu à rendre des comptes et ont assez peu à justifier ou à expliquer leurs éliminations ciblées, ce qui rejoint, soit dit en passant, au passage, le problème sur le fait d'avoir des chiffres qu'on évoquait tout à l'heure.
Exactement. En fait, ce livre, donc, il est le sous-titre, c'est « Critique du libéralisme armé ». Pourquoi ? Donc ça, il faut toujours faire beaucoup de pédagogie dans un contexte francophone, parce qu'il y a toute une histoire du mot « libéralisme » qui ne veut pas forcément dire la même chose en fonction des pays. Et aujourd'hui, le libéralisme, on a tendance à l'associer à la dimension économique ou aux relations internationales, mais il y a une tradition libérale qui est un peu perdue de vue, qui est celle du libéralisme politique. Et donc ce travail, il s'appuie sur une conceptualisation d'un penseur que je trouve magnifique, une pensée extrêmement élégante, fine, subtil, qui est Judith Sklar, qui était professeure à Harvard, et qui, elle, parle du libéralisme de la peur, c'est-à-dire le fait que il y a dans ce contrat entre le citoyen et l'État pour dire que le citoyen ne doit pas vivre dans la peur de cet État. ce qui veut dire lutter contre le pouvoir arbitraire de l'État et contre la violence des institutions d'État, voyez, pour pouvoir vivre en bonne intelligence, à la fois dans la dimension individuelle et collective. Or, ce qui est intéressant dans les assassinats ciblés, c'est qu'on tue, au nom de la protection de la communauté politique libérale et aussi de la protection de ses libertés, de la liberté d'expression notamment, ou des libertés dont les citoyens israéliens ou américains ou même français jouissent tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait justement des garde-fous pour se protéger du pouvoir de l'État, qui est à la fois nous protège, mais dont il faut à la fois se méfier. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais y a tout, c'est, à mon avis, c'est très bien théorisé par Derrida quand il parle des logiques auto-immunes.
J'ai beaucoup aimé ça. C'est assez peu souvent que j'ai la chance de croiser une référence à Derrida dans un livre que je lis pour le podcast. J'ai beaucoup aimé ça.
Voilà, donc en fait, Derrida, lui, il parle...
C'est la métaphore organiciste des maladies auto-immunes, c'est-à-dire des maladies qui attaquent d'un système immunitaire qui attaque le corps qu'il est censé défendre.
C'est ça, exactement. Donc c'est-à-dire que vous allez... Vos défenses immunitaires, elles vont vous attaquer, vous, au lieu d'attaquer les cellules qui vous sont néfastes. Et c'est la même chose pour l'État. C'est-à-dire, comment on sait que si on donne le droit à nos États d'aller éliminer des gens sur des suspicions en dehors d'un théâtre de guerre, comment on sait qu'on va réussir à le contenir ? Et moi, je vous disais que j'étais critique vis-à-vis de ces pratiques. Critique au sens étymologique de trier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, oui. Mais je ne suis pas opposée à ces pratiques-là. Je pense qu'effectivement, les assassinats ciblés tuent des individus qui sont extrêmement nocifs pour les sociétés. Mais le cœur de l'ouvrage, c'est vraiment poser la question de rendre des comptes. Comment on fait pour que les États rendent des comptes ?
C'est ce que j'allais dire. C'est peut-être la deuxième grande caractéristique que vous identifiez de la construction politique libérale. C'est l'idée que la légalité peut être appliquée et que donc on peut répondre de ses actes, notamment devant des tribunaux, ce qui est aussi un angle mort de cette politique d'assassinat ciblé, puisque, alors dans les deux cas, Israël et les États-Unis, c'est pas la même chose, mais dans les deux cas, les personnes qui décident de ça ne répondent peu ou pas, en tout cas, il n'y a pas de juridiction qui est vraiment qualifiée et efficace pour les juger en cas de bavure avérée.
Voilà, exactement. Et ce que je voulais dénoncer, c'était une forme de paradoxe, voire d'hypocrisie.
Alors, on va juste dire, c'est un peu différent. Israël, ils ont eu besoin de faire une construction au moins intellectuelle. Donc, ce sont des comités juridiques qui sont censés évaluer ça. Mais bon, qui de fait, dans les
d'ailleurs,
faits, marche
si on,
pas.
Si on a le temps, c'est intéressant de revenir sur pourquoi l'État israélien a fait ça. En fait, ce qui est intéressant aussi avec les assassinats ciblés, c'est que la plupart de la littérature sur cette question, c'est une littérature juridique. C'est un grand nombre d'ouvrages sur les assassinats ciblés l'aborde du point de vue du droit. Israël donc a commencé à pratiquer les assassinats ciblés. Il y en a eu un qui est très important, qui est celui en 2002 de Salah Shradé, qui était un des dirigeants des brigades Al-Qassam, qui est la branche armée du Hamas. Donc Israël a lancé une bombe d'une tonne sur sa maison, ce qui a occasionné de nombreux débris, sachant que Gaza est une des zones les plus densément peuplées du monde. Il y a eu 14 civils qui ont perdu la vie, dont 8 enfants. Et donc ça a provoqué un scandale à l'intérieur d'Israël, mais aussi dans les associations de défense des droits de l'homme et chez les Palestiniens. Donc il y a eu un recours à un mécanisme juridique qui est, à mon avis... fascinant, mais qui est aujourd'hui extrêmement menacé, qui est celui de compétence universelle. Qu'est-ce que c'est la compétence universelle ? C'est toujours dans cette idée de la CPI, de Nuremberg, en fait. C'est l'idée que si un État refuse de donner des infos sur ce qu'il fait, ou d'appliquer le droit, ou de respecter des crimes de guerre, eh bien, un autre État peut aller le juger. Donc, les Palestiniens sont allés voir une juridiction espagnole en disant, voilà... on attaque Israël pour crime de guerre. Et on attaque Israël...
En Espagne.
En Espagne, voilà. Et on attaque Israël, c'est-à-dire le Premier ministre, le chef de l'état-major, enfin des personnalités haut placées. Ce qui est très embêtant, puisqu'après, elles ne peuvent pas se déplacer. Vous voyez, ça fait partie du lawfare,
en fait. Ils ne peuvent pas circuler en Espagne, parce qu'ils seraient sujet d'une enquête en Espagne.
Voilà, exactement. Donc, le seul moyen... pour Israël de couper l'herbe sous le pied de cette juridiction espagnole, c'est de prendre, de se saisir elle-même de l'affaire. Donc, c'est ce qu'a fait la Cour suprême israélienne, qui d'ailleurs avait déjà été saisie, en fait, de cette affaire, et qui a rendu un arrêt en 2006 qui dit, voilà, nous pratiquons des assassinats ciblés. Cette pratique n'est pas illégale au regard du droit international si elle remplit tel et tel et tel critère. Donc, c'est à la fois une légalisation des assassinats ciblés et à la fois une restriction quand même, parce qu'il y a des critères qui sont posés à l'État. Un de ces critères, c'est la création de comités pour les Palestiniens, les familles de Palestiniens qui sont morts lors de ces types de frappes, d'aller demander des comptes, en fait, à Israël.
Sur... C'est l'idée qu'il y a un suivi, c'est qu'on ne s'arrête pas avec la frappe et que ça ne reste pas une affaire en interne à l'armée, c'est qu'il y ait au moins un droit de regard civil, et notamment exactement, du point de vue des victimes, sur ce qui s'est passé.
Exactement. Or, ce que j'ai découvert en faisant ma thèse, c'est que ces comités, en fait, n'existent pas. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on commence à chercher, en fait, donc les mandats des comités vont assez secrets. On ne sait pas combien de nombres, combien de cas ils ont été saisis. On ne sait pas quels jugements ont été rendus, quel est leur budget, qui siège dans ces comités. Et en fait, ce que les gens m'ont dit et ce que j'ai compris au final, c'est qu'ils n'existaient pas, ces comités, et qu'ils étaient juste là sur le papier en cas justement d'une enquête de la CPI ou autre. Sachant qu'aujourd'hui, la compétence universelle, elle est très très réduite, et ce type d'action, ce serait plus possible parce qu'il y a eu des pressions politiques pour réduire cette compétence universelle.
Donc Israël a trouvé la parade pour éviter de se faire juger par les Espagnols, c'est-à-dire créer des comités, mais qui sont donc devenus des comités fantômes, qui servent juste, disons, d'argument, quoi.
Voilà.
Donc... faible, disons, responsabilité juridique des responsables de ces actions, des responsables en tout cas militaires de ces actions. Et ce que vous soulignez, c'est que c'est à peu près, enfin c'est même encore pire pour les États-Unis, puisque une grande partie de ces assassinats sont menés par la CIA. Et enfin bon, il est quasiment proverbial que la CIA répond pas à grand monde, quoi.
Mais en fait, ce qui est assez quand même beau en Israël, c'est que les cours se saisissent quand même de ces questions. Elles se déclarent compétentes. Donc la Cour suprême va dire oui, nous on a institutionnellement le droit de juger l'État sur ce qu'ils font. Aux États-Unis, les cours se déclarent incompétentes. Donc les cours disent oulala, ça c'est le domaine réservé de l'État. Nous on n'interfère pas. Et donc voilà, c'est une fin de non-recevoir. Mais il y a quand même aussi des...
Oui, et il va sans dire que la compétence universelle aurait du mal à s'appliquer, c'est-à-dire qu'on voit mal un juge espagnol ou italien ou n'importe qui se mettre à chercher à aller juger des agents de la CIA.
Ah oui, bah de toute façon, les États-Unis sont vent debout, évidemment, contre ce concept. Et ils sont d'ailleurs aujourd'hui vent debout carrément contre la CPI, hein, donc, puisqu'ils ont même interdit à la procureure de la Cour pénale internationale de venir aux États-Unis. Mais en même temps, c'est pas non plus tout noir ni tout blanc, parce que quand on prend le cas d'Anouar al-Awlaki, qui est une personne qui a été justement tuée lors d'une élimination ciblée par les États-Unis, en fait, lui, il a été placé sur la kill list des États-Unis. Et alors qu'il était recherché par les États-Unis, son père a pu remplir une requête dans une cour américaine pour justement forcer l'État à dire pourquoi son fils avait été placé sur cette liste et pourquoi les États-Unis voulaient l'éliminer. Donc la requête n'a pas abouti, mais le fait que ce soit possible montre quand même que le droit a un mot à dire. Et le droit, donc au final, pour répondre à votre question, le droit... sert de justification. Le droit est un élément du discours, de l'imaginaire politique important sur les assassinats ciblés, mais, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, mais n'est pas suivi des faits.
Très bien. Merci beaucoup, Amélie Ferré.
Merci à vous.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et vos commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Commentaires qui sont toujours les bienvenus, tout comme vos notes, notamment sur iTunes. Ce qui aide grandement à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.